toxique de revoir les mêmes personnages, que c'était surtout pour ça que je voulais le voir.
Bonjour.
Tiens, regardez un peu ce que l'armée du salut nous ramène.
Pardon, qui est-ce ?
C'était l'une de vos Émilie.
Une de mes quoi ?
J'aimerais bien voir comment Andrea va revenir dans la vie de Miranda, en fait. Pourquoi, etc.
Peut-être qu'elle devienne styliste, qu'elle invente ses propres vêtements. Et du coup, ce serait intéressant d'aller le voir.
Je suis la nouvelle rédac chef de Runway.
Non, c'est pas vrai.
Si, et on en est tous ravis.
Propos recueillis par Mylène Desbac. Voilà, c'est la fin de ce flash. Excellente fin de journée à tous.
Présence à Toulouse, 97.9. Présence.
Radio Présence, 19h.
À 19h sur Présence, le moment pour vous est venu de retrouver l'actualité du cinéma avec N'oubliez pas l'ouvreuse. Bonsoir, nous sommes heureux de vous retrouver, l'ouvreuse Louis-Marie Laurent Martin. Bonsoir Laurent.
Bonsoir Louis-Marie, bonsoir à tous. Après le match du siècle, va-t-on assister à l'émission du siècle ? Vous serez dans 56 minutes.
Bien sûr, c'est l'émission du siècle tous les mercredis soirs.
Ça va être dur, mais on va essayer.
Non. Nous sommes les plus forts. Et vous êtes notre attaquant en pointe toujours.
Ah oui, merci.
En pointe toujours, même si...
Merci coach.
Même si vous êtes le dernier à intervenir.
Même si vous n'avez pas vu le match.
Oh, mais de quoi se mêle-t-il ?
C'est presque du cinéma, il y avait tout. Il y avait
De quoi se mêle-t-il ?
Vous parlez d'un match que vous n'avez pas vu.
Ah c'est vrai, moi je ne l'ai pas vu. Et tout le monde dit que c'est le match du siècle, alors on verra.
Bon,
on va le voir.
Écoutez, on va interrompre ce débat très profond, très important, voire philosophique, pour revenir à ce qui nous préoccupe, le cinéma. Et alors, ah oui. Vous allez nous conseiller quelques films à voir à la télé.
Oui, j'ai sélectionné, parce qu'il n'y a pas toujours du football à la télévision, hein, et puis des fois c'est crypté. J'ai sélectionné 4 films pour le cinéma à la télévision cette semaine, et puis on peut aussi éteindre tous nos écrans, tous.
Tous.
Et ouvrir un livre. Et à ce moment-là, il y a un conseil de lecture.
Ça existe encore,
sur
les livres.
Le cinéma. Ça existe encore. Oui. Ans, ça n'a pas duré.
Vous avez entendu sa voix. Il est un peu dissipé aujourd'hui. Il a plein de choses à raconter.
Il est venu avec des supporters et des supportrices.
Ah, ben oui, c'est pour ça. On le comprend. On comprend pourquoi il a besoin d'être là aussi en avant. Notre mécano, celui non pas de la générale, mais de l'ouvreuse, celui qui nous promet tous les mercredis son retour de manivelle, mais en fait le retour de manivelle, il s'arrange pour qu'il ne nous blesse pas, c'est Guillaume Sidom. Bonsoir Guillaume.
Eh bien bonsoir à tous et à toutes. En effet, nous avons vu le match du siècle, on va quand même le citer, c'était PSG-Bayern 5-4, et ça courait de partout, une intensité folle. Heureux d'avoir vu ce match.
Tant mieux. Tant mieux pour vous. Je suis très content pour vous.
Merci.
Guillaume Sidom, ce soir.
J'ai pas envie de parler cinéma, j'ai l'impression.
Oui, non, je sais pas ce qu'il a ce soir.
On va refaire le match.
Ouais, on refait le match.
Et il refera le match, mais c'est dommage. On n'a plus d'émission de sport. Il faudrait qu'il la crée, cette émission de sport.
Bah, c'est une bonne idée.
Et vous parlerez du match pendant une heure.
De ce que je connais, en fait.
Une heure, si vous en avez envie. Bien, mais ce soir, vous avez cédé votre atelier, celui du retour de manivelle, à Laetitia Debord, dont on a entendu la voix. Bonsoir Laetitia.
Bonsoir Louis-Marie, Guillaume et Laurent, et bonsoir tout le monde.
Excusez-moi Laetitia, je reviens à Guillaume Sidom, qui, je le rappelle, est un peu dissipé ce soir et qui va empiéter sur les conseils à Lolo. Alors Lolo, c'est notre Laurent, celui qui éteint la télé pour lire, mais il se trouve qu'il va falloir la rallumer grâce à Guillaume, n'est-ce pas Guillaume ?
Bravo, j'étais à la télé, vous l'avez rallumée.
Oui, il faudra la rallumer parce que j'aurai un conseil Blu-ray musical ce soir avec un groupe de légendes, et le Blu-ray est sorti aujourd'hui.
Il est tout chaud.
Laetitia. Laetitia oui. Debord, vous êtes donc dans l'atelier de Guillaume Sidom et de quoi allez-vous nous parler ?
Que faites-vous dans mon atelier ?
Je vais parler d'un British.
Un British ?
Oui, d'un British.
Un British.
Un cinéaste british, c'est ça ?
Il y en a beaucoup, quand même.
Ah oui, mais lequel ? Lequel ? Spécialiste des chroniques sociales ou des aventures ? Ou des aventures un peu rocambolesques ? Enfin, on verra. C'est pour, dans pas longtemps, c'est dans quelques minutes que nous découvrirons de qui Laetitia Debord va nous parler. Et puis, notre homme de loi des séries sera toujours dans son tribunal, celui des séries, Grégory Com, ce soir, va nous parler de One Piece, la série live action du fameux animé. Et cette fois, c'est de la saison 2 dont il va nous parler. Et c'est une série qu'on peut voir sur Netflix. Et puis, dans le panier de l'ouvreuse, eh bien, il y aura toutes les belles et bonnes choses que vous retrouvez habituellement tous les mercredis à cette heure-ci, à savoir l'affiche de la semaine, qui est scrutée et particulièrement mise en valeur par l'ouvreuse et surtout Laurent Martin. Il y aura les reprises sur le grand écran, il y aura des coups de cœur, parce qu'on a toujours, ça c'est la fin de l'émission, on a toujours des films, des manifestations ou des festivals qu'on a envie que vous alliez voir de notre part. On est ensemble jusqu'à 20h. Bon début de soirée avec nous. Laetitia Debord, on ouvre cet atelier ? Allez, on l'ouvre tout de suite même.
Dans un monde ultra connecté, il se révèle être une exception exceptionnelle. Sans téléphone portable ni adresse mail, c'est par pigeon voyageur qu'il faut le contacter. Pas étonnant, à la fois mi-Robin, mi-Robine, il a trouvé sa Marianne en la personne d'Emma Thomas et ont fondé ensemble leur boîte de production Syncopie, reflet d'une perte de conscience. Affublé d'un logo labyrinthique, Nolan donnera vie à sa créature au format cinématographique tel un Frankenstein. Sa bride à lui, c'est Inception. Film sorti en 2010, comptait 10 d'expérimentation. Tout est une question de temps chez lui, cherchant un élu masqué ou non, façon Matrix à l'univers Bullet Time. Nous retrouvons d'ailleurs Trinity dans Memento, lié inconsciemment à Oppenheimer, dernière œuvre sortie en salle en 2023. Car Trinity, c'est également le nom du code du tout premier essai nucléaire, en référence à la poésie métaphysique de John Donne. Oui, il donne. Sir Nolan change la donne, sa donne coordonne et redonne, à l'image de ses enfants. Homme de l'ombre, méticuleux et dans le contrôle, notre Robin, commandeur de l'ordre de l'Empire britannique depuis 2019, par Elizabeth II, God Save the Queen, si complémentaire de son fidèle acolyte le Chevalier Noir qu'il met en scène pour la toute première fois en 2005 dans Batman Begins. Interprété par l'excellent Christian Bale, il sort quand cela t'est nécessaire l'artillerie lourde avec sa tumbler, croisement entre une Lamborghini et un char d'assaut pour faire régner la justice et aider sa bien-aimée Rachel. D'ailleurs, le commissaire Gordon n'en revient toujours pas.
Je vais chercher ma voiture.
J'ai pris la mienne.
La vôtre ? Il faut que je m'achète le même modèle.
Le Batman de Nolan se veut plus réaliste, ancré dans notre société actuelle en arborant un côté plus cérébral à l'image de son réalisateur. Il sillonne avec psychologie, montrant davantage les failles, les doutes et les peurs de l'homme chauve-souris. Âme solitaire, mais entouré de valeurs sûres, comme son majordome Alfred, ou encore son concepteur de gadgets hors pair, Lucius Fox. Les scènes de combat sont brutales et fortes. Inspiration du cinéma de Michael Mann, issu du film Coup de poing Hit. Nolan aussi a son hit à lui, qui braque l'attention des spectateurs par son interprétation subtile et dérangeante du Joker dans le deuxième volet de la saga The Dark Knight, sorti en 2008. Oscar posthume obtenu pour cette interprétation, R.I.P. Mr. Ledger. Tout comme Bruce Wayne, notre British man Christopher mouille le maillot sur le plateau pour mettre à l'aise son équipe ainsi que ses comédiens. Testeur inconditionnel, cascadeur à 16 heures pour la scène d'échafaudage qui s'effondre sur 10 mètres dans The Dark Knight Rises, scène interprétée par Anna Taoué en Selena Kyle, plus secrètement Catwoman, qui a d'ailleurs reçu les honneurs de Barack Obama. Le super méchant du troisième opus est joué par un performeur physique comme Bale. Bane serait-il son jumeau caché ? Après 14 kilos de muscles engendrés en 3 mois, l'acteur Tom Hardy défie notre justicier masqué en mode combat Casey, méthode instinctive et féroce immergeant du cœur. Je vous invite à le redécouvrir demain en salles obscures à 19h au Patty Wilson en version originale sous-titrée. Devenu maître de la métaphore de notre existence et des fins ouvertes, notre pelliculeman british garde l'exigence du old school. Coéquipier de confiance qui seconde Spielberg lorsqu'il quitte le projet Interstellar, n'hésite pas à traverser la Manche en voilier avec sa femme jusqu'à Dunkerque tellement il est fasciné par l'opération Dynamo, décortique cela en 3 perspectives, temporalité, mais également en 3 lieux dans son film Dunkerque sorti en 2017. Le tout rythmé par un tic-tac constant de montre à gousset lancé par le compositeur Hans Zimmer, signature du flegme britannique. Au fond, quelle est la valeur et le but de l'existence humaine ? Tout comme son chevalier noir, nous avons besoin d'une figure qui incarne l'espoir. Alors, préférez-vous le rêve ou la réalité ?
De Christopher Nolan, selon Laetitia Debord. H signe le teaser, la musique en tout cas du teaser Elfie et les super Elfkins en salle depuis aujourd'hui. Justement, les films en salle, eh bien c'est l'ouvreuse et Laurent Martin qui s'en occupent.
À l'affiche cette semaine, Vivaldi et moi, le premier film de Damiano Micheletto, avec Tecla Insolia, Michele Rondino et Fabrizia Sacchi. Nous sommes au début du XVIIIe siècle et l'Ospedale della Pietà à Venise recueille et forme de jeunes orphelines à la musique, dissimulées au public, souvent masquées ou derrière une grille. L'orchestre de jeunes filles se produit pour les riches mécènes de l'institution. Et parmi elles, il y a Cecilia, 20 ans, qui excelle en tant que violoniste, jusqu'au jour où l'arrivée d'un nouveau maître de musique, le fameux Antonio Vivaldi, vient bousculer la vie et celle de l'Ospedale. Grand metteur en scène d'opéra à la Scala comme à la Fenice ou au Palais Garnier, Damiano Micheletto reste fidèle à la musique pour son premier long métrage réalisé à 50 ans avec quand même la fougue d'un jeune homme. Vivaldi et moi n'est pas un biopic du compositeur des Quatre Saisons, l'élément le plus important du titre français auquel on pourrait d'ailleurs préférer l'italien original et plus poétique d'ailleurs Primavera, le printemps en italien. Tous les genres et tous les continents sont mobilisés pour la cause des femmes, on le sait depuis quelque temps. Alors quitte à arpenter un chemin balisé entre la souffrance, la résilience, l'émancipation, autant le faire en musique avec Antonio Vivaldi. Vivaldi et moi est librement inspiré de Stabat Mater, le roman de Tiziano Scarpa. Alors si Vivaldi est quand même le pivot de l'intrigue, il n'en est pas le protagoniste. Donc je l'ai dit, l'héroïne de Vivaldi et moi, se nomme Cecilia, une très jolie violoniste de 20 ans, énormément de talent, et elle est pensionnaire donc de ce fameux Ospedale della Pietà à Venise. Pensionnaire, peut-être pas, plutôt On pourrait dire prisonnière. Le terme serait plus juste, car en ce début du XVIIIe siècle, l'institution recueille et forme donc de jeunes orphelines à la musique. Et constitue, pardon, un orchestre féminin d'excellence. Alors, ces musiciennes se produisent, je l'ai dit, pour la noblesse vénitienne, ou pour les souverains d'Europe de passage, dans la Sérénissime, en se dissimulant donc derrière une grille à l'église, ou le visage caché derrière un masque. L'orchestre finance les activités de la Pietà et rivalise avec d'autres institutions musicales vénitiennes. Elles aussi, toujours en quête de riches mécènes. Alors, servantes et musiciennes aux capes écarlates, ces jeunes filles ne peuvent quitter l'hôpital qu'au bras d'un mari qui les aura choisies et payées, et au prix d'un renoncement à la musique. Cécilia, elle, aura les faveurs d'un militaire galonné, incarné ici par Stefano Accorsi, un futur geôlier au sourire carnassier, soucieux d'obtenir une épouse vierge et dévouée à son retour de la guerre. Et donc c'est dans ce contexte qu'advient l'arrivée de ce nouveau maître de musique à l'hospital. Antonio Vivaldi, incarné ici par Michele Riondino, n'est pas encore le compositeur adulé dans toute l'Europe des années 1720. Il a plutôt l'allure austère d'un prêtre solitaire et souffreteux, à la mauvaise respiration. Le souffle, lui, on le trouve dans sa musique, qui n'a rien d'asthmatique, elle. Vivaldi enseigne, donc compose, dirige avec une ferveur inédite en ses murs. Et donc le chef va prendre sous son aile Cecilia, lui fait fabriquer un nouveau violon par le meilleur luthier de la ville. Les yeux tristes de la jeune fille brillent d'un nouveau feu. Michelito filme donc le génie baroque de Vivaldi et le goût de la liberté de Cecilia avec un classicisme sobre. Il déjoue l'académisme aussi bien dans sa peinture de la cité des Doges que dans sa mise en scène des concerts. Il ne néglige pas non plus le romanesque de ce destin de femme. Petite revue de presse sur ce film. Point positif pour première. Vivaldi et moi en salle ce mercredi est un hommage vertueux plein de maestria aux musiciens de l'Ospedale della Pietà à Venise. L'Obs a bien aimé sous la plume de Xavier Le Harper le portrait d'une jeune fille jeune orpheline qui, sous l'égide du maître, trouve l'occasion de s'émanciper de sa condition. Le Dauphiné Libéré a bien aimé aussi une mise en scène soignée. Petit bémol pour le monde. Si ces histoires méritent amplement d'être racontées, leur formatage par un cinéma taillé pour l'industrie finit par les desservir. À l'affiche aussi cette semaine, on peut voir Le Diable s'habille en Prada 2 de David Frankel. Rappelez-vous, Meryl Streep, Anna Hathaway, Emily Blunt et Stanley Tucci reviennent dans la suite du Diable s'habille en Prada 20 ans après. Très attendu, ces retrouvailles voient la terrible Miranda tombée de son piédestal, éclaboussée par la crise de la presse écrite. Actualité et mélancolie le disputent donc au glamour et aux paillettes. C'est une suite que les fans attendaient quand même depuis 20 ans. Les trois actrices réenfilent leurs escarpins et leurs lunettes noires et poussent à nouveau la porte du prestigieux magazine de mode Runway, qui est quand même le double fictif de Vogue. Toujours réalisé par David Frankel, Le Diable s'habille en Prada 2 conserve la flamboyance visuelle et vestimentaire du premier volet, mais perd en mordant et en ironie ce qu'il assume en réalisme et activisme. On sait qu'actualité et mélancolie le disputent désormais au glamour et aux paillettes, car en même temps les choses ont changé. L'économie des secteurs de la presse, des magazines et de la mode, tous combinés, n'a plus grand-chose à voir avec leurs grandes heures des années 2000. Revue de presse sur ce film. JQ, sous la plume d'Adrien Communet, a bien aimé. Oui, Le Diable s'habille en Prada 2 a été pensé pour plaire aux puristes de la première heure. Oui, c'est un excellent divertissement qui plaira sans doute un peu à tout le monde. Première a bien aimé, toujours de l'humour, du drame, du glamour pour cette suite réussie et pertinente du film culte. Bémol pour Paris Match, sous la plume de Fabrice Leclerc. Mêmes ingrédients, même envie de satire, même ton de comédie new-yorkaise, mais cette fois, rien ne fonctionne vraiment. À l'affiche aussi cette semaine, on se tournera vers le Sénégal avec le nouveau film du franco-sénégalais Alain Gomis, Dao, qu'on peut voir à l'American Cosmographe. On peut voir aussi Sekwan Island avec l'excellent Swan Arlo, un film de Vladimir de Fontenay qu'on peut voir au Grand Palais à Cahors ou à l'ABC à Toulouse. Une si longue lettre d'Angèle Diabang. On peut voir un film espagnol Sorda d'Eva Libertad Garcia au CGR Montauban Le Paris ou au Régent à Saint-Gaudens. On peut voir Die My Love de Lynn Ramsey. On peut voir Okum, un film d'épouvante de la semaine. C'est Damien McCarthy qui l'a réalisé. Et pour les tout petits, vous en parliez tout à l'heure, Louis-Marie. Elfie et les Super Efkins, film d'animation des 3 ans de Hoote van Munkepol.
Papi, papi, tienes algo que no tiene nadie. Cuando me miras la boca se me corta el aire. Te asomaste a la ventana al final del día. En el pecho te brillaba una luz prendida. Qué hermoso era tu pecho, una blanca luna. No lo cubras la camisa, solo lo importuna. Querida, me condenas sin guardar reposo. Hondo beso y honda muerte la que hay en tu rostro. Hondo beso y honda muerte la que hay en tu rostro.
On peut entendre la très belle chanson de Verda Prato, Nescaren Canta, dans le film d'Eva Libertad García, Sorda. Sorda qui raconte une histoire universelle, celle d'un couple confronté à l'arrivée de son premier enfant. Ouais, mais c'est un contexte singulier que voilà, puisque Angela est sourde, tandis que son compagnon Hector est entendant. Ça va causer quelques problèmes à la maman, notamment parce que le bébé, lui, sera entendant.
L'ouvreuse sur Radio Présence.
Et si nous retrouvions le tribunal des séries avec notre homme de loi qui ce soir, je pense, a revêtu son habit, sa robe d'avocat, il va nous parler de One Piece, la série live action, la saison 2, à voir sur Netflix.
Je déclare l'audience ouverte.
Mon cher et fougueux Louis-Marie, ce soir, je vais vous parler d'une série télé sur Netflix que j'ai aimée. Et oui, ça fait du bien, un peu, de passer du bon temps devant une série télé. Cette série, c'est la saison 2 de One Piece sur donc Netflix. Alors, One Piece, ça parle de quoi ? En fait, de base, c'est un manga, puis un animé japonais à succès. Hein. On est à plus de 100 tomes, des milliers d'épisodes. Donc, c'est très dur aujourd'hui pour quelqu'un qui veut rentrer dans cette franchise de le suivre, d'autant plus que l'animé est un peu vieillot, même si un remake est annoncé depuis des années. Et donc, Netflix a décidé d'en faire une vraie série avec des acteurs réels. Alors, au départ, j'étais très, très, très dubitatif sur le résultat, parce que l'univers de One Piece est assez loufoque, avec des personnages complètement extravagants. Je me suis dit, est-ce qu'ils vont aseptiser ? Comment ils vont le faire ? Quelle histoire ça raconte ? Ben en fait, dans un monde où la piraterie est à son apogée, il y a ce qu'on appelle des fruits du démon, c'est-à-dire un fruit, si vous le mangez, vous avez des pouvoirs, mais vous ne pouvez plus aller dans l'eau parce que vous ne savez plus nager, vous coulez. Alors je simplifie. Et dans ce monde-là, Luffy, un jeune garçon, puis ensuite jeune adulte, va manger un fruit du démon, et malgré le fait qu'il puisse pas aller sur l'eau, va décider de chercher le One Piece, qui est un trésor potentiellement, c'est pas vraiment ce que c'est tout l'enjeu, caché par le plus grand des pirates, Gold Roger, malgré, effectivement, il va aller partir à cette recherche et sur la mer, malgré le fait qu'il ne puisse pas nager. C'est une ode à la liberté, cette série. C'est vraiment un des thèmes principaux, et évidemment, Luffy va rencontrer plusieurs personnages avec des histoires très bien écrites qui vont soit le rejoindre, soit être des antagonistes. Il va partir sur Grand Line, c'est-à-dire la mer de tous les dangers. Encore une fois, je m'excuse auprès des fans de One Piece que je sais très impliqués, je simplifie au maximum. La saison 1 était une réussite et une surprise, parce que habituellement quand on fait une adaptation d'un animé, c'est souvent assez mauvais. On se souvient de Dragon Ball Evolution, un des pires films de tous les temps qui massacrait la licence Dragon Ball. On se souvient aussi de l'adaptation récente des Chevaliers du Zodiac, catastrophique. Donc quand on a vu arriver ça, on avait peur. Finalement, saison 1 magnifique, un des plus gros succès de Netflix, une ambiance formidable, une façon de filmer très intéressante, pourtant avec certes des gros moyens, mais ça demande des moyens colossaux parce qu'on est vraiment dans quelque chose, dans une vraie fantaisie. Et la saison 2 était attendue de pied ferme, surtout que One Piece, comme beaucoup de mangas, marche par arc scénaristique. Et là, on est non pas sur un arc de transition, mais des aventures avant une grande confrontation. Donc on voulait se demander comment ça allait être monté, avec des lieux différents. La saison 2, je ne vais pas vous la spoiler, mais a évidemment son lot d'aventures, son lot de combats, son lot de personnages extrêmement loufoques. Et en fait, c'est là où la série a réussi. C'est qu'elle accepte complètement d'avoir des personnages ringards, d'autres ultra charismatiques, des personnages atypiques et des personnages, je dirais, qu'on ne pensait pas qu'ils pourraient être racontés dans une série télé. Et elle assume complètement et pleinement ça, et ça fait plaisir. On va à fond dans ce délire-là. Et c'est une série aussi qui assume son récit épique et parfois son récit dramatique. Je note en particulier l'épisode 7, c'est une série de 8 épisodes, qui clairement m'a mis les larmes aux yeux en racontant l'histoire d'un personnage au passé tragique et avec mise en avant les liens familiaux et les liens d'amitié. Et c'est là où on voit la qualité d'une très grande série. C'est-à-dire qu'elle sait à la fois raconter une histoire globale de très très bon niveau, développer le personnage principal et les personnages secondaires d'une très bonne façon, et sur l'espace d'un épisode, nous présenter un nouveau personnage et faire en sorte qu'on l'adore et qu'on pleure à côté de lui, comme si on le connaissait depuis des années. Donc oui, One Piece saison 2 est une réussite totale. Vivement la saison 3, vive One Piece, et sur ce coup-ci, vive Netflix. Voilà, vous l'avez deviné, votre temps est précieux, chers auditeurs. Je vous conseille vraiment de le dépenser devant One Piece saison 2.
Quand notre homme de loi des séries aime, il aime beaucoup. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous qui êtes abonné à Netflix, One Piece saison 2. Même la musique est réussie, elle est signée Sonia Balusova et Giona Ostinetti. Je ne voulais pas écorcher son nom, c'est elle qui signe la BO de One Piece. thème signé Elliot Lawrence. Ça vous fait pas penser à quelque chose, à une façon de présenter des programmes dans les années 70, oui, en particulier à la télévision.
Oui, les journaux télévisés.
Exactement.
Américain.
Et où les émissions qui sont censées avoir beaucoup de téléspectateurs devant leur poste, un audimat remarquable. Eh bien, c'est ce que raconte Network, le film de Sidney Lumet. Un monument dans le genre. Le film est sorti en 1976 et racontait l'histoire d'un réseau qui s'appelle UBS, ben, il vous fait penser à un autre réseau,
CBS, qui,
à
l'époque,
et qui est racheté par un conglomérat, et évidemment, à partir du moment où il est racheté, on fait le ménage, et en particulier, on se débarrasse du présentateur du journal télévisé, le générique dont on vient d'entendre la musique, qui était ce présentateur Howard Beale à la tête de ce journal depuis 20 ans et en perte d'audimat. Ouais, mais alors qu'est-ce qui fait le bougre? Alors évidemment le rédacteur-chef dit non, mais il faut pas faire des choses comme ça, mais bon, il s'en fout, il le balance, mais lui il reste à l'antenne et il menace de se suicider. Et alors là, l'audimat explose.
Oui.
Et évidemment, les dirigeants du conglomérat disent « Ah, tiens, il y a quelque chose à faire.
Ouais. »
Et voilà comment on va détourner. C'est assez extraordinaire. Un générique éblouissant, c'est le moins qu'on puisse dire, fait de Noé, en rédac-chef aux griffes acérées, William Holden, Peter Finch, Robert Duval en patron du conglomérat, ça vous laisse sans voix. Et c'est un film qu'on peut revoir grâce au CGR de Rodez. Il faudra aller jusqu'à Rodez, mais nos amis...
Ah, ça vaut le coup d'y aller. Hein.
Ouais, et sur Arte.tv, puisque dans l'excellente chronique de Laurent Martin la semaine dernière, vous le conseillez.
Tout à fait. Merci, Monseigneur. Je pense pour vous, Monseigneur.
Je vous en prie.
Excusez-moi de vous couper. Il faut voir tous les films de Sidney Lumet.
Oui.
Un après-midi de chien, oui, Serpico. Voilà. Souvent tiré de faits divers, il savait vraiment mettre le doigt dessus et développer ça. Et vraiment,
avec beaucoup de talent.
Grand talent, ouais.
Alors, après la télé, le grand écran. En VO, donc mardi 5 mai à 20h au CGR de Rodez. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Tiens, ça.
What's new, Pussycat? What's new, Pussycat? Whoa, 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 whoa. Pussycat, Pussycat, I've got flowers and lots of hours to spend with you. So go and powder your cute little Pussycat nose.
Alors ça aussi, c'est un grand film, mais européen celui-là, signé Clive Donner, sorti en 1965, bah, c'est pas compliqué, le titre de la chanson et le titre du film en français, Quoi de neuf Pussycat, exactement le même sens. Et dans Quoi de neuf Pussycat, eh bien, il est question d'un rédac-chef, encore un, d'une revue féminine à Paris, séducteur invétéré, qui a un amour... énorme pour Carole Werner, mais il peut pas ignorer les autres femmes. C'est ennuyeux, surtout qu'elle attend qu'il la demande en mariage. Alors ça va devenir compliqué. Alors il va aller voir un psy, mais le psy, lui, il a des frustrations. C'est embêtant. Il s'appelle Fritz Fassbender. Et puis il y a le copain de Michael, qui est aussi le copain de Carole, et il est amoureux d'elle. Alors tiens, je vous donne le générique aussi. Le Michael, donc, le personnage central, c'est Peter O'Toole. Le psychiatre, c'est Peter Sellers. Fait du lourd.
Oui.
La beauté qui fait chavirer les cœurs, mais pas toujours celui de Peter O'Toole, c'est Romy Schneider.
Ah.
Et l'amoureux transi, Victor Chakakopoulis, oui, c'est son nom dans le film, ben, c'est Woody Allen.
Oh, oui, il y a plus de bons acteurs.
Voilà. Eh bien, vous pouvez voir ce film dans la programmation pop de la Cinémathèque. Alors, c'est pour quand? Ben, c'est pour demain, jeudi 30 avril, à 21h. Puisqu'on est à la Cinémathèque, restons-y, il y a un très beau film. Alors là, un très beau, de Billy Wilder, Sabrina. Là aussi, il n'y a que du beau monde. Un film de 54, Humphrey Bogart, William Holden et surtout Audrey Hepburn.
Ah oui.
Audrey Hepburn, oui, qui joue le rôle de la fille du chauffeur d'un riche... d'un grand bourgeois américain et qui en a marre d'être devant et qui voudrait monter à l'arrière de la voiture. Vous voyez ce que je veux dire? Et ben voilà. Et elle va semer le trouble auprès de tout ce beau monde, William Holden, en jeune premier extraordinaire, et Humphrey Bogart en riche bourgeois, un peu freiné, un peu timide. Ouais, c'est un grand film que propose là dans Billy Wilder, en tout cas la programmation qui lui est consacrée à la Cinémathèque, et c'est pour le samedi 2 mai à 19h. Sinon, au cinéma, Patty Wilson commence à partir du 3 mai une programmation qui concerne tous les films qui ont obtenu un Oscar. En fait, tous les films. Étant donné que ça a commencé en 1929, ça en fait quelques-uns qui ont eu l'Oscar du meilleur film. Mais, eh bien, on va voir les premiers. Et en particulier, le premier à avoir eu l'Oscar, c'est Les Ailes de William Wellman, un film de 1928. Un film muet. Donc, un très très beau film. Donc, c'est une version remasterisée, recolorisée, évidemment sonorisée, pas dans les dialogues, il y a la musique. Les intertitres seront en français. Et c'est une histoire, somme toute, très classique, comme on pouvait voir dans les films muets. C'est l'histoire de deux jeunes hommes, un riche, l'autre de la classe moyenne, tous deux amoureux de la même femme. Ah ben mince alors. Qui deviennent des pilotes de chasse de l'US Air Force. Enfin, à l'époque, c'est l'US Air Corps. Et ils deviennent des as de l'aviation héroïques pendant la Première Guerre mondiale. Eh oui, forcément. Meilleurs amis dévoués, leur amour commun pour la jeune fille finit par menacer leur lien. Eh bien, vous irez voir le film remarquable de William Wellman. Premier Oscar du meilleur film, c'est pour dimanche 3 mai à 13h30. Alors lui, il les a collectionnés, les Oscars. Il a dû en avoir 8 ou 9. Il les a eu en 40. C'est autant on emporte le vent.
Ah oui.
Ah oui, autant on emporte le vent. Bon, est-il besoin de présenter le film de Victor Fleming? Non. Dire qu'il y a vite Vianney, Clark Gable et Leslie Howard dedans? Non plus. C'est un monument du cinéma américain et aussi du cinéma mondial. Lundi 4 mai, 14h15. Alors lui, il est en VO, bien sûr, puisqu'on parlait en 39 quand on a tourné le film. Et puis, il y a une curiosité, elle, qui n'a pas eu d'Oscar, et pour cause, le film a été tourné en 1922. Et les Oscars sont apparus en 29. Donc pas d'Oscar, mais on peut le voir au Patty Wilson, toujours. C'est Il était une fois, un film de Carl Theodor Dreyer. Alors ça, c'est un drôle d'objet, très particulier, l'histoire d'une princesse qui éconduit tous ses prétendants. Il n'y en a aucun qui trouve grâce à ses yeux. Et un jour, le prince du Danemark arrive pour demander sa main et tenter de gagner son amour grâce à des objets magiques que lui ont donné un esprit. Drôle d'histoire. Alors, autant Les Ailes était un film long, 2h24, autant le Il était une fois de Carl Dreyer est court, à peine 1h10. À découvrir donc, c'est phénoménal, lundi 4 mai, à 20h, toujours au Patty Wilson, hein, c'est les palmes. Sinon, au Patty Wilson, Laetitia Debord vous en a parlé, il y a The Dark Knight Rises et The Batman, le retour de l'homme chauve-souris sous les traits de Robert Pattinson.
Un Batman beaucoup plus sombre.
Ouais. C'est...
Est-ce que je peux rajouter quelque
chose? Oui, bien sûr.
Il y a le deuxième opus de Matt Reeves, de Batman, avec Robert Pattinson, qui devrait sortir en 2027.
En 2027, on va patienter encore un peu.
Oui, mais bon, c'est pour dire que voilà, il y a notre Batman qui attend.
On attendait puisque le film avait plu et plus sombre, et effectivement, on attendait parce que Nolan avait mis la barre assez haute. Il fallait que la barre soit franchie, et il semblerait que Matt Reeves, en tout cas, y est arrivé et est à peu près à la même hauteur, comme Pattinson à la hauteur de Christian Bale. Donc, les deux films sont à voir au Patty Wilson, le 30 avril pour Dark Knight Rises, c'est-à-dire demain à 19h, et pour The Batman de Matt Reeves, dimanche 3 mai à 19h. Les deux films, bien évidemment, sont en VO. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Ah, voilà, des films. Alors là, deux films particuliers, l'un comme l'autre, pas dans le même registre. Le film de Bong Joon-ho, Snowpiercers, le transpersonnage, alors ce train qui est lancé à toute allure, et dont on ne peut pas descendre, parce que si on en descend, on se sent très très mal, puisqu'il ça se passe pas bien sur Terre.
Hein, c'est vraiment... du bande dessinée.
Ouais. Et Bong Joon-ho, vous savez, c'est Parasite, hein, mais c'est un film qu'il avait fait bien avant, en 2013, et une belle distribution américaine, hein, Chris Evans, Jamie Bell, Tilda Swinton. On peut voir le film au Pâté la Bêche, dimanche 3 mai à 19h15 en VO. Et puis il y a Délicatessen aussi. Retrouver Caro et Jeunet.
C'était
là aussi,
leur premier film,
non ? On est dans le futur. Alors c'est bon, je n'ai pas vérifié, mais.
On va vérifier.
Hein, on demande à un auditeur docte de nous dire si c'était leur premier. En tout cas, c'est dans une France post-apocalyptique, il y a un ancien clown qui est engagé comme concierge dans un hôtel. Le quartier est peuplé entre autres de troglodistes, d'un boucher, d'un éleveur de grenouilles et d'un fabricant de boîtes à meux.
Eh bien oui, bien sûr.
Bah oui.
On croise tous les coins de rue.
Oui, mais évidemment. Sur fond de guerre et de terrorisme, le voyageur va découvrir l'amour. C'est extraordinaire comme film. Délicatessen, donc, c'est au Pâté la Bêche, lundi 4 mai, à 19h45. Et puis, on va finir notre tour d'horizon des reprises sur grand écran avec le très beau film de Pedro Almodovar, Volver, avec Penélope Cruz et la grande, gigantesque Carmen Maura. Et elles sont toutes les deux accompagnées par Lola Dueñas. Un très, très beau film qu'il ne faut manquer sous aucun prétexte.
Je voudrais juste préciser et revenir sur le pop à la Cinémathèque de Toulouse. Il y a quand même certains lame shows, Nobody is Perfect de Billy Wilder qui passent. C'est ce dimanche, je crois, 2 mai.
J'en reviens donc à Volver, 16e long métrage du réalisateur espagnol Pedro Almodovar. C'est l'histoire de Penélope Cruz, en fait Raimunda, une femme issue d'un milieu modeste de la Mancha qui vit à Madrid avec sa fille adolescente et un mari instable. Elle est confrontée à une série d'événements tragiques qui la poussent à protéger sa fille coûte que coûte. À découvrir donc au VO de Muret dimanche 3 mai en VO à 18h20. Et puis à l'American Cosmograph, un film libanais qui s'intitule « L'heure de la libération a sonné ». Un film qui avait été présenté à la Semaine de la Critique au Festival de Cannes en 1974. Il est court, et bien, une heure tout rond, et il est signé, laissez-moi retrouver le nom du réalisateur, Eni Srour. Ben voilà, on a tout dit sur ce qui se passe à la Cinémathèque et les autres écrans toulousains et de la région Occitanie. On en vient à la télé avec vous, Laurent.
Le cinéma à la télévision, ça commence dès ce soir sur Arte à 21h avec À plein temps d'Éric Gravel avec Laure Calamy. La vie de Julie est rythmée par un planning plus que millimétré, métro, boulot, dodo. Elle doit se lever chaque matin très tôt, comme vous Guillaume. Éric Gravel passe à la vitesse supérieure avec ce drame social en pleine connexion avec le réel, tourné vraiment comme un véritable thriller, rythmé, tendu. Et devant sa caméra, Laure Calamy est impériale en mère célibataire, prête à tout pour changer de vie. Jeudi France 4 à 21h pour avoir Corporate de Nicolas Silliol avec Céline Salette et Lambert Wilson, là aussi un film sur notre monde actuel puisque c'est Emily qui est une jeune et brillante responsable des ressources humaines, une killeuse comme on dit dans le milieu, et suite à un drame dans son entreprise, une enquête est ouverte et elle sera en première ligne. Le premier long métrage de Nicolas Silliol est une œuvre originale entre le drame et le thriller. Vendredi, France 5, 21h, et la fête continue, hein, un petit Robert Guédiguian, hein, c'est toujours agréable, avec Ariane Ascari, de Jean-Pierre Darroussin et Gérard Mélan. Alors si l'on connaît son engagement social et politique et la fidélité de sa troupe de formidables comédiens, le réalisateur emblématique de Marseille prouve une fois de plus qu'il navigue souvent avec aisance parmi les genres, et cette fois il investit le film choral, certes avec quelques maladresses, mais aussi avec une élégance et une générosité salvatrice. Dimanche, Arte, 21h, un film que vous aimez beaucoup, Guillaume, je le sais. Ce sera Donnie Brasco de Mike Newell avec Al Pacino
excellent film.
Et Johnny Depp. Ouais, c'est un très bon film. Ouais. Nous sommes en 1978. Le lapin.
Vous confondez avec Denis Darko. c'est pas du tout la même histoire. C'est Jack Gyllenhaal et pas Al Pacino.
C'était une pirouette.
Cacahuète, oui. Allons-y. Retombez sur vos pieds, Guillaume.
Nous sommes en 78, à Brooklyn, et Joe Pistone, un jeune agent du FBI, est chargé d'infiltrer l'une des plus puissantes familles de la mafia sévissant dans la cité new-yorkaise, tirée d'une histoire vraie, un polar palpitant et nerveux, dans lequel, bien sûr, le duo Johnny Depp et Al Pacino fonctionne à merveille. Conseil de lecture, ce sera les plus belles affiches de cinéma de Richard Dacre. Voilà un très très beau livre. De Autant en apporte le vent, hein, dont on parlait tout à l'heure, à Spider-Man, en passant par À bout de souffle, ou E.T., hein, rappelez-vous, Téléphone Maison, découvrez la fabuleuse histoire des plus belles affiches du 7e art. Ce beau livre regroupe plus de 100 affiches qui ont marqué l'histoire du cinéma. On retrouve ça aux éditions Géo Art pour 29,99€. Tenez, Laetitia, je vous l'offre.
À l'époque, on faisait des affiches originales.
Des très belles affiches, oui.
Pas numériques.
Parfois peintes, oui. Oui, mais sans le numérique et l'intelligence artificielle, on ne va pas y échapper, de toute façon. Et Guillaume, je vous fais la passe.
Pour la merci, Laurent. Moi, je vous propose de terminer ce mois d'avril en musique avec le documentaire Becoming Led Zeppelin. On va écouter d'ailleurs de la musique, Louis-Marie.
Après,
bon, alors signé de l'anglo-irlandais Bernard McMahon, sorti sur vos écrans en février 2025, disponible en Blu-ray dès aujourd'hui pour les fans de rock, c'est le Graal, le premier autorisé par le groupe mythique anglais lui-même. Cette histoire peut enfin être racontée, le fruit en effet d'un très long travail. Vous imaginez le choc que ça a été pour ceux qui ont découvert cette musique il y a 58 ans déjà, à la fin de l'année 68. Et ce documentaire retrace donc l'ascension fulgurante des quatre membres du groupe, de leur début respectif jusqu'à leur explosion planétaire en 1969. Le film se concentre en effet sur la genèse du groupe britannique et son ascension fulgurante en moins de 18 mois entre l'été 68 et fin 69. L'histoire créative, musicale et donc personnelle, et cette odyssée cinématographique captivante mêle donc images d'archives inédites et interviews exclusives de Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones et du défunt batteur John Bonham. Eh bien, la restauration.
Bonham.
Oui, vous allez me reprendre.
Bonham.
Bonham. La restauration des images de concert et le travail sur le son au fond de cet excellent documentaire, une expérience immersive totale. C'est bien plus qu'un simple biopic, c'est une plongée dans le processus créatif de l'un des plus grands groupes de l'histoire. Ce documentaire passionnant et bien fait de bout en bout, avec une qualité de son irréprochable sur les extraits musicaux. Becoming Led Zeppelin, édition collector, inclut un Blu-ray 4K, deux médiators, un patch, un autocollant, une lettre du réalisateur n'en jetez plus, à retrouver donc chez Sony Pictures Classic pour 69,99€. À regarder donc avec le son au maximum.
I am vengeance. I am the night. I am Batman!
fameux Ramble On de Led Zeppelin. Tiens, savez-vous pourquoi il s'appelle Led Zeppelin ? Le zeppelin de plomb, c'est paradoxal. C'est un oxymore. Comment un zeppelin pourrait-il être en plomb ? Il ne s'envolera jamais.
Oh, c'est une bonne question. Hein. Le ouais. Zeppelin, c'était...
C'est pas compliqué. Ouais. Ils se demandaient quel nom choisir. Pourquoi pas ça ? Avec une coquetterie dans l'orthographe de plomb, puisque ça s'écrit en anglais L-E-A-D, mais c'est pas les premiers à transformer l'orthographe. Les Beatles, avant eux, avaient remplacé le un des deux de Beatles de du scarabée par un A. Moi, donc, pourquoi pas enlever un A à l'aide, hein, pourquoi pas. Et c'est le complètement barré batteur des Who, Keith Moon, leur dit, vous pouvez prendre ça. Hein. De toute façon, comme vous allez vous planter avec un nom pareil, c'est déjà
ça
c'est
ça
vu,
marchera pas,
ça marchera pas. Donc, et puis, si jamais ça marche, vous pouvez dire que c'est une trouvaille, comme ça. Voilà. Allez, sur les derniers accords de Ramble On de Led Zeppelin, un mot sur le box-office français de la semaine qui vient de s'écouler. En tête, évidemment, de la tête et des épaules, c'est Michael, le biopic sur Michael Jackson, qui en une semaine réalise 1 390 000 entrées. C'est vous dire s'il était attendu. Peut-être un peu décevant, certes, mais en tout cas, les spectateurs s'y sont précipités. Sur la deuxième marche du podium, Super Mario Galaxy, le film qui, lui, en est à sa quatrième semaine d'exploitation, qui, en une semaine, réalise toujours 608 000 entrées et qui, en entrées cumulées, dépasse largement les 4 500 000 entrées. Ce qui est remarquable. Et le tandem Toledano-Nakash occupe la troisième marche du podium, deuxième semaine, avec 346 000 entrées et accroche le million. Allez, on est à 980 000 entrées, il devrait passer le million. Cette semaine, la semaine qui s'ouvre aujourd'hui. Voilà pour le box-office. Après, les surprises, c'est le projet Dernière Chance qui est toujours là. Il est descendu en dixième position, mais réalise toujours 49 000 entrées et a dépassé le million d'entrées également, comme Jumpers, le film très réussi Disney, c'est Disney, oui. Disney et...
C'est pas Pixar.
Mais Pixar appartient à Disney, donc c'est tous les deux ensemble. C'est Disney et Pixar, ils le disent comme ça, c'est Jumpers, très réussi, et qui est à 48 000 entrées toujours, 8 semaines d'exploitation, 1,5 million. Voilà pour le box-office de la semaine. Vous vouliez ajouter quelque chose, Laurent, peut-être ? Vous aviez quelques infos à nous donner ?
Oui, on peut parler de Cannes ou on en parle
oui,
la semaine
oui,
prochaine.
Oui, oui, oui.
Vite fait,
deux mots, ça va nous mettre en jambes. Ça arrive, oui, le festival de Cannes arrive.
On va préparer nos costumes.
Oui.
Le film d'ouverture, ce sera La Vénus électrique de Pierre Salvadori. Après, il y aura Les Habitués. Pedro Almodovar, dont on parlait tout à l'heure, avec son nouveau film Amarga Navidad. Il y aura Asghar Farhadi, avec Histoire parallèle. James Gray, qui est de retour avec Paper Tiger. Il y aura la fille de Miu Miu, Jeanne Herry, avec Garance. Le cinéaste roumain Christian Mungiu revient avec Fjord. Et côté asiatique, il y aura Kore-eda avec Chip in the Box. Et d'autres réalisateurs que l'on connaît moins. Voilà.
Eh bien, on en reparle dès que ça commence. Quelques jours à patienter. Nous irons sur la croisette avec l'ouvreuse Laetitia. Il y aura aussi, elle nous l'a dit.
Mais tout à fait. Moi, je voulais savoir, est-ce qu'on est invité ? C'est sympathique, hein ?
C'est une bonne question.
Non, alors, c'est-à-dire qu'à Cannes, on n'est pas invité. On demande une accréditation quand on fait partie de la presse.
Et là, c'est un peu trop tard, mon avis.
Et c'est un peu juste. On peut y arriver, mais après, il va falloir se loger là-bas. Ça risque d'être compliqué.
On n'est pas à ses côtés, pour Cannes.
Non, si.
Pas VIP,
Je vous raconterai tout, mais ça sera hors antenne et sur une musique peu célèbre d'un compositeur qui l'est peu également et qui donne son titre original à ce film remarquable de Damiano Micheletto. La Primavera. On comprend comment la jeune Cecilia, prodige du violon, s'illustre sur les œuvres de Vivaldi dans ce film extraordinaire, très réussi en tout cas, académique dans la mise en scène, mais remarquable. À noter que le film a eu le prix du public et le prix du jury aux dernières rencontres de cinéma italien de Toulouse, c'était en décembre dernier. Messieurs, quels sont vos coups de cœur, messieurs et mademoiselle?
Bah d'abord la dame, non?
Allez, la mademoiselle, madame. Coup de cœur, Vivaldi et moi, Le Diable s'habille en Prada 2, et puis Michael aussi, le biopic.
Pour moi, ce sera Vivaldi et moi, Sick One Eye One, un film d'horreur, Okoum.
Vous aimez faire peur.
Vivaldi et moi, Le Diable s'habille en Prada 2.
Vivaldi et moi, Sorda d'Eva Libertad Garcia, un film remarquable, et puis Elfie et les Super Elfkins, dès 3 ans. Merci, madame. Bonne merci, soirée. Messieurs.
Merci. Merci, Louis-Marie.
Restez fidèles à la présence, on se retrouve.
Écoutez Présence, c'est votre radio. Soutenez Radio Présence, qu'elle devienne aussi la radio de beaucoup d'autres.